On est en train de continuer l'étude sur le guide de prière, puis on a passé à travers plusieurs sujets. Puis on a encore quelques-uns à voir au niveau de la prière. Pourquoi un guide? C'est parce qu'on veut se rappeler tout ce que Dieu nous demande dans sa parole, des sujets à laquelle il nous demande de prier. On veut apprendre à prier, on manque d'inspiration. Comme Paul dit, je prierai par l'esprit, puis je prierai aussi avec l'intelligence. Fait que prier par l'esprit, c'est prier en langue. Tu peux prier dirigé par le Saint-Esprit, prier pour des besoins, c'est prier par l'esprit. Mais la Bible parle aussi de prier avec l'intelligence. Puis prier avec l'intelligence, mais c'est de lire la Bible, voir les sujets dans la Bible que Dieu nous demande de prier. Puis là, on se bâtit des listes de prières basées avec les sujets que Dieu nous demande de prier. Puis là, on se bâtit une liste de sujets de prière qu'on peut prier quotidiennement ou selon le rythme de chacun, prendre du temps à prier pour devant le Seigneur, pour combattre spirituellement, pour faire avancer l'œuvre de Dieu. Et tiens, on mène à cela quelque part. On veut faire avancer l'œuvre de Dieu. Puis l'œuvre de Dieu, elle s'avance dans la prière. Il faut combattre. Puis si on n'est pas habitué, mais il faut commencer à quelque part, il y a la prière du Notre Père qui est un exemple. Mais il y a tous les sujets qu'on regarde, ça en est tous des sujets que vous pouvez prier. Ce soir, on va voir que Jésus nous demande dans sa parole de prier pour qu'il y ait de nouveaux ouvriers. L'œuvre est grande. Il y a des milliards de personnes sur la terre, puis il n'y a même pas un centième, même pas une personne sur cent qui est chrétienne. Même pas une sur mille. Ça veut dire, si on veut atteindre tout le monde, comme le Seigneur nous le demande, de prêcher à toute la création, ça n'en prend des ouvriers, puis il en manque d'ouvriers. Puis une fois que les hommes acceptent le Seigneur, ça prend du monde pour s'en occuper, pour les nourrir spirituellement. Il en manque d'ouvriers. On va voir tantôt, là, le plan de Dieu, je crois que c'est sa volonté. Dieu veut qu'il y ait des églises dans toutes les villes, dans tous les villages, partout. Si jamais on sera paralysé, puis il n'y aura plus de pétrole, là, puis qu'on n'aura plus de moyens de transport, qu'est-ce qu'il faudra faire? Mais se réunir dans les localités où ce que nous sommes, avec des chrétiens qui sont là, on ira à pied à l'église. Puis il y a bien des pays que ça se passe comme ça, puis ils ont leur réunion de prière dans la ville, dans un village, puis ils se rencontrent. Mais je pense, ça prend des ouvriers dans toutes les villes, dans tous les villages. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. On va voir un sujet de prière capital pour l'accomplissement de la Grande Commission. Pour ceux qui ne savent pas, la Grande Commission, c'est basé sur deux passages dans Matthieu, à la fin de Matthieu et à la fin de Marc. Quand Jésus donne l'ordre à ses disciples après sa résurrection, il leur donne l'ordre d'aller prêcher la bonne nouvelle à toute la création, puis des enseigner. Mais pour cela, quand il a dit à toute la création, il y avait 12 apôtres devant lui, puis il dit « Allez prêcher à toute la création ». Puis pas juste en toute la création de ce temps-là, c'est à travers tous les siècles. On est 2000 ans plus tard, puis il y a encore plein de nouveaux mondes qui sont pas atteints. Il y a des naissances, les écoles sont pleines d'enfants. Il y a plein de monde qui n'ont pas encore entendu parler de la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Jésus nous demande de les atteindre. Mais c'est clair que Jésus avait un plan. Mais dans son plan, pour qu'il s'accomplisse, il nous demande à nous de prier pour cela. Puis vous allez le voir tantôt dans des versets qui nous le disent spécifiquement. Personne n'ignore le mandat du Seigneur d'atteindre par son esprit et par sa parole chaque individu sur cette terre. Jésus, dans 1 Timothée plutôt, c'est Paul qui parle dans 1 Timothée 2:4, ça nous dit que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Ça, en regardant un verset comme ça, ça nous montre l'ampleur. C'est pour ça que juste au verset 1, ça nous dit, « J'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes. » Il nous demande de prier pour tout le monde parce que Dieu veut toutes les sauver. Amen. Il y a de l'ouvrage, il y a du pain. C'est une grande commission. Jésus lui-même, C'est, Jésus, là, c'était pas n'importe qui, c'était un humain, oui, il est en forme humaine, mais c'était Dieu à l'intérieur de lui. C'était le Tout-Puissant en lui. L'Esprit Saint qui est en lui, c'était l'Esprit du Créateur de l'univers. Hein? Jésus lui-même, qui était Dieu fait homme, il n'avait pas l'intention d'entreprendre à lui tout seul cette grande mission. S'il aurait voulu, il aurait pu évangéliser la planète tout seul. Il n'y a même pas besoin de personne. Il avait juste à apparaître à tout le monde. Ça aurait-il été possible? Oui. Jésus, il dit, je suis avec vous tous les jours. Il est partout, avec tout le monde. La Bible a dit que tout est créé en lui. Il est partout. Partout où tu vas, il est là. Fait que s'il aurait voulu, il n'aurait pas apparaître à chaque individu sa planète. Mais c'était pas ça son plan pour atteindre les gens. C'est ce que ça va nous dire un peu dans ce verset-là. Quand il était sur la terre, Jésus, dans Luc 6, le verset 12 et 13, ça nous dit, « En ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier et passa toute la nuit à prier. Quand le jour parut, il appela ses disciples, puis en choisit 12 auxquels il donna le nom d'apôtres. » Y a-t-il quelqu'un qui sait ce que ça veut dire être un apôtre? Le mot apôtre. Envoyé. Jésus a choisi 12 personnes, puis a remarqué, avant de les choisir, il a prié. Ça dit qu'il a passé la nuit entière à prier pour choisir vraiment des personnes qui vont avoir un ministère spécial. Puis en plus, ils vont être équipés par Jésus. Parce que ces envoyés-là vont être envoyés par Jésus pour aller répandre la bonne nouvelle. Ça veut dire que Jésus, il était Dieu, il aurait pu faire toute la job tout seul. Mais il a décidé de remettre la tâche aux humains. Il prie Dieu, il a passé la nuit à prier, il a choisi les 12, puis après ça, il a prié pour ces 12-là, pour les envoyer avec la puissance de Dieu qui les accompagne. Des gens formés par Jésus, ils ont reçu la doctrine, ils ont reçu des enseignements, mais ils ont reçu aussi le Saint-Esprit. Il y avait la puissance de Dieu sur eux. Puis ils faisaient toutes sortes de miracles et de signes. Jésus a dit à ses disciples, j'ai donné le pouvoir de marcher ces démons, puis d'écraser les démons, puis de chasser de guérir les malades, puis de chasser les démons, puis de répandre la bonne nouvelle, puis même de ressusciter des personnes mortes. Jésus a mandaté des humains pour comme le remplacer. Il n'a pas voulu faire la job spirituellement, il a voulu la faire physiquement, puis lui, il fallait qu'il aille partout, il a envoyé des gens à sa place. Il part, lui, est tout seul pour commencer, il est rendu 12. On va voir que la vision de Jésus, il voulait que ça grossisse encore beaucoup plus que cela. Lorsque Jésus appelle quelqu'un, il lui donne sa formation, puis il l'équipe pour son travail. Il l'envoie pas comme sans savoir quoi faire, puis sans savoir quoi dire. Il nous équipe, il nous forme. C'est pour ça quand on dit on va prier pour qu'il y ait des ouvriers, on le sait que c'est un travail à long terme, fait que Dieu, faut qu'il choisisse des personnes, puis il faut qu'il lui donne la formation, puis il vient un temps où ils vont être relâchés pour aller dans la mission. Mais Jésus s'en est occupé, c'est comme je vous disais tantôt dans Matthieu 10, 1, il a appelé les 12, puis il leur donna le pouvoir. Il leur donna la capacité de faire l'ouvrage qui avait à être fait, puis il faisait le même ouvrage que Jésus. Puis même Jésus dit, vous allez faire des œuvres encore plus grandes que j'ai faites. Ça veut dire, la vision de Jésus, c'est qu'il veut qu'on soit comme lui. Qu'on croit qu'il nous a mandaté à aller porter la parole. Puis ce qu'on apporte aux gens, les paroles qu'on apporte, mais l'Esprit Saint travaille avec tout cela pour les sauver. Mais à travers la parole qu'on apporte, on prie pour les gens, puis les gens ils sont guéris ou ils sont délivrés, mais Dieu y agit pour confirmer ce qui a été dit. C'est ça qui est le but. Jésus nous laisse pas seuls. Jésus travaille avec les envoyés. Il dit, Il a envoyé, il a appelé les 12 disciples, puis il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Est-ce que tous les disciples ont ce mandat-là aujourd'hui? Oui. C'est qu'est-ce que ça prend pour pouvoir vivre cela? Premièrement, il faut que tu sois un disciple du Seigneur, mais ça te prend de la foi. Dans Marc, ça dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront des démons, ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, ça ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. C'est des signes que Dieu veut manifester. Oui, des fois, il faut prier plus qu'une fois pour certains cas, mais il ne faut pas se décourager. Dieu exauce les prières. Puis aujourd'hui, on est là, aujourd'hui, 2000 ans plus tard. On n'a pas besoin d'avoir le titre d'apôtre où aujourd'hui, c'est plus comme missionnaire ou implanteur d'église qui remplace les apôtres. Mais des prophètes, il y en a encore, des évangélistes, il y en a encore, des pasteurs, il y en a encore, des docteurs en théologie, il y en a encore. Tous les ministères sont là, encore 2000 ans plus tard, puis c'est plus les mêmes personnes. Mais Jésus savait qu'on aurait eu besoin de ces ministères-là à la fin des temps. Puis c'est pour ça que la vision de prier pour que Dieu envoie des ouvriers est encore valable aujourd'hui. Parce qu'il y a encore plein de territoires où il n'y en a pas encore de missionnaires ou d'évangélistes. Il y en a des territoires où c'est pas atteint. Il y a des villes au Québec qui n'ont pas été évangélisées. Beaucoup de villes qui n'ont pas été évangélisées. Il n'y a pas d'église, il n'y a rien. Puis peut-être que c'était évangélisé il y a 100 ans avec les églises protestantes. Mais il y a eu du nouveau monde, il y a eu du déménagement. On devrait toujours être en train d'évangéliser nos municipalités. C'est la vision de Dieu pour atteindre tous les hommes, pour que ça soit juste pour tout le monde de pouvoir entendre la parole au moins une fois dans leur vie. Parce qu'il y en a qui l'ont entendu plusieurs fois, mais il y en a qui n'ont même pas encore entendu vraiment expliquer le plan du salut, là. Ils n'ont pas eu la grâce encore, mais c'était notre mission. Devant l'ampleur du travail, Jésus n'a pas lâché avec les 12. Pendant un bout de temps, il a travaillé avec les 12. Mais après ça, l'ampleur du travail, Jésus voulait atteindre toutes les villes d'Israël. Il dit, j'ai été envoyé vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Puis ça nous dit qu'il voulait atteindre toutes les villes d'Israël. Devant l'ampleur, Jésus a envoyé 72 autres disciples dans sa mission. Ça nous le dit, ça, dans Luc, au chapitre 10, le verset 1. Ça nous dit, dans ce texte-là, que le Seigneur choisit ensuite 72 autres disciples qu'il envoya devant lui, deux à deux, dans toutes les villes et les lieux où il devait aller lui-même. Voyez-vous? Il voulait atteindre les villes d'Israël, puis Israël, c'est bien plus grand que juste Jérusalem. Il y en a plein de villes. Puis là, il les a envoyés, les 72, deux par deux, ça veut dire qu'il y a 36 groupes d'évangélistes qui sont partis pour aller évangéliser partout où Jésus devait aller. Fait que sa vision à Jésus, c'est d'atteindre les villes et les villages partout. Il l'a fait pendant qu'il était à sa terre, il l'a montré, il a montré l'exemple à ses disciples. Il a été lui-même, il a formé les autres à y aller, puis ça a continué après ça, après la Pentecôte, que les disciples y allaient de lieu en lieu. Même, on dit que l'apôtre Pierre, qui était comme le monde le prenne comme un pape, là, mais c'est pas, il n'était pas un pape, il n'était même pas le personnage le plus important de Jérusalem. Apparemment que c'était Jacques qui avait l'autorité, le frère du Seigneur, qui avait l'autorité à Jérusalem. Mais Pierre, il faisait partie des anciens de Jérusalem, puis lui-même, Pierre, a été en mission pour aller évangéliser dans des villes. On le voit ça un peu plus tard que Philippe a évangélisé la Samarie, puis les gens se sont convertis, se sont fait baptiser, mais les gens avaient pas reçu le Saint-Esprit, puis Pierre est arrivé avec un autre apôtre, puis ils ont prié pour les gens pour qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Mais l'évangélisation, là, tout le monde avait ça à cœur. d'aller répandre la bonne nouvelle. La mission, c'est d'atteindre tout le monde. Puis les premiers, Jésus en premier, les 12, les 72 et les apôtres après ça, puis les autres, avaient la même vision d'atteindre les âmes perdues. C'est ça la mission. Dieu veut sauver, il veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Fait que Jésus devait aller dans plein de villes, mais il voyait bien l'ampleur du travail. Il a nommé les 72 dans le but d'y aller. Dans le même texte où ce qu'a envoyé les 72, c'est là qu'on rentre dans le sujet de notre verset, qu'on doit prendre conscience de ce verset-là, puis d'en faire un sujet de prière, au verset 2, là, Luc 10, 2. Ensuite, Jésus nous donna ce sujet de prière. La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Il n'a pas demandé ça avant que les 72 soient nommés. Il a nommé les 72. Après ça, il a demandé ce sujet de prière-là. Ça veut dire que dans le cœur de Jésus, il en voulait plus que 72 qui soient dans la mission, en train de répandre la bonne nouvelle, le salut en Jésus, puis prier pour les malades, chasser les démons. Même les 72 qui ont été envoyés en mission, ils sont revenus de leur mission, puis ils étaient tout excités. Seigneur, même les démons nous sont soumis en ton nom. Jésus dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Mais il dit, réjouissez-vous pas que les démons vous sont soumis. Réjouissez-vous que votre nom est inscrit dans les cieux. Amen. C'est ça que Jésus a besoin. Des gens qui sont saisis de la vision, qui veulent sauver les âmes, puis qui y allent avec la foi, avec la parce qu'il dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Si tu crois, ben crois que tu peux avoir les signes qui t'accompagnent. Sois pas gêné de prier. Tu rencontres du monde, parle de Jésus, puis prie pour les malades. Puis si la personne a un mauvais esprit, chasse-les dans le nom de Jésus. Donne les victoires parce que c'est notre mandat, autant de parler, autant de c'est le mandat de prier. Mais ayons aussi le mandat dans notre cœur là, de prier que Dieu envoie d'autres ouvriers. Imaginez qu'on est à Beauharnois et qu'on prie pour qu'il y ait d'autres ouvriers. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu va envoyer d'autres personnes dans l'Église qui vont accepter le Seigneur pour qu'ils soient formés par l'enseignement qu'ils vont recevoir, parce qu'il dit, Jésus dit, enseignez-leur à observer. On va les enseigner, puis après ça, ils vont y aller, puis ils vont évangéliser eux autres aussi. Ils vont aller en chercher d'autres, puis on va continuer à prier. Il va y en avoir d'autres vont accepter. On va les enseigner, ils vont y aller. Là, ça grossit. C'est de même que ça s'est passé au début, après la Pentecôte. Puis c'est de même que ça doit se passer encore aujourd'hui. Il y a tellement de monde qui n'ont pas encore entendu parler de Jésus. Faut qu'on réalise que c'est notre mission, c'est notre mandat. À la fin de son ministère, Jésus organisa et responsabilisa son Église en partageant sa vision en deux volets. Les derniers mots là, que Jésus a dit à ses disciples, ça dit après sa résurrection, Jésus est apparu pendant 40 jours. Mais à la fin du 40 jours, là, il parlait avec ses disciples, il leur a donné la responsabilité de l'Église. Puis il leur a donné sa vision. Puis ça, il faut la saisir, cette idée-là. Il y a deux volets pour sa vision en Jésus. La première, c'est dans Matthieu 28, les versets 19 et 20. Jésus a dit à ses disciples, « Allez, faites de toutes les nations des disciples. » Ça veut dire que Jésus voulait voir du monde sauvé de toutes les nations. C'est ça qu'on voit dans l'Apocalypse. Dans le ciel, il y a une vision, là, on voit que Dieu a sauvé des gens de toute tribu, de tout peuple, de toute langue, de toute nation qui se tiennent devant le trône. Fait que spirituellement, là, il y a une vision de l'avenir, ça va s'accomplir, qu'il y ait des gens de toute nation, de toute langue, de toute tribu, de tout peuple qui vont être sauvés. Puis Jésus, là, il avait envoyé ses 12, ben, plus que 12, il était 120 en dernier. et qui priaient dans la chambre haute. Mais c'était des gens qui priaient pour avoir la puissance pour y aller évangéliser. Puis, il dit, « Allez faire de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Fait que là, tu fais un disciple, tu le baptises. Puis la deuxième étape, c'est « Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. » Ça, ça veut dire « Enseignez-leur à obéir à la parole. Enseignez-leur à écouter ce qui est écrit et à le mettre en pratique. » C'est ça que ça dit. « Veillez à ce que tout le monde mette en pratique les enseignements de Jésus. » Tu fais un nouveau disciple, il faut qu'il soit enseigné. C'est comment, quelle est la vie d'un disciple de Jésus? Puis ça, il faut enseigner ce que c'est la vie d'un disciple de Jésus. Comme Jésus a enseigné des points, tu vois les points que Jésus a enseignés, mettons un exemple, tendre l'autre joue, fais ci, fais ça. Tout le mode de vie que Jésus a enseigné, pas faire adultère, même pas dans tes pensées, blablabla. Il y a plein de points, plus que ce que les apôtres ont enseigné, qui font partie des enseignements de la Nouvelle Alliance. C'est toutes des choses qu'on doit mettre en pratique. Fait que, dans ce passage-là, on voit que l'enseignement, c'est important. Jésus, il veut qu'on forme des disciples, qu'on fasse pas juste des conversions. On veut que ça soit des gens qui deviennent des disciples, des gens matures dans le Seigneur, qui mettent en pratique la parole. Puis dans Marc, on voit l'aspect d'évangélisation est encore plus grand. Dans l'Église, doit avoir une vision aussi d'atteindre chaque créature avec le message de la bonne nouvelle, afin que les gens soient sauvés. On voit ça dans Marc 16 à 18, mais mettons 15. Versets 15 et 16. Jésus a dit à ses disciples, « Allez par tout le monde, prêchez la bonne nouvelle à toute la création. » Ça, ces deux textes-là vont ensemble. Ça semble dire des choses différentes, mais c'est pas que c'est un contre l'autre, c'est que les deux s'additionnent. Les deux se complètent. Autrement dit, Jésus a tout dit ça, mais Matthieu s'est rappelé d'un bout, puis Marc, il a écrit l'autre bout. Allez par tout le monde prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Ça comprend combien de personnes, ça, toute la création? C'est tout le monde sans exception. Faut y croire. On y croit-tu à la parole du Seigneur? On croit-tu que c'est écrit cela? C'est pas moi qui l'ai inventé, là. C'est écrit cela. Moi, je crois qu'il faut mettre en pratique ce qui est écrit là. Quand on va arriver devant Jésus, qu'est-ce qu'il va nous dire? Qu'est-ce que je t'avais dit? Il nous avait dit ça, ça n'est des choses qu'il nous a dit. Faut réaliser, là, avant qu'on soit mort. Parce que même qu'on soit mort, on va dire, oh non, comment ça fait, je l'ai pas fait. Des milliards de personnes, des millions de personnes, peut-être, qui auraient entendu le message si j'aurais osé parler. Parce que quand tu parles à quelqu'un, n'oubliez pas, il va y avoir des conversions, puis les autres vont parler à d'autres, puis les autres vont parler à d'autres, puis là-dedans, il y en a peut-être qui vont être des gens qui vont faire des sites web, ils vont parler à la radio, ils vont prêcher dans les rues. Il y a toutes sortes d'évangélisations qui peuvent se faire. Au bout de 5, 6, 10, là, tu peux être rendu à 1000 qui s'est converti, puis tu le sais même pas, puis que l'évangélisation se fait tout partout à cause de cela. Mais si tu parles pas, là, si on n'en parle pas, ça se fait pas. On n'obéit pas au Seigneur. Il nous dit de prier pour que le maître envoie d'autres ouvriers dans sa moisson. Il faut y croire, puis il faut saisir ça par la foi. Puis c'est le mandat de l'Église. L'Église est bâtie sur ces deux sujets-là. Fais des disciples, va en chercher des nouveaux, prêche à toute création, puis quand il arrive, baptise-les, puis enseigne-leur à observer la parole que j'ai enseignée. Parce que Jésus veut des gens obéissants. Dans les enseignements de l'apôtre Paul, c'était la même affaire. Paul, il nous rappelle comment c'est urgent et important que nous prions afin qu'il y ait des nouveaux ouvriers dans sa moisson. Dans Romains 10, le verset 13 à 15, là, ça nous parle de cela, comment c'est important qu'il y ait des gens qui soient en train de prêcher. Ça nous dit, « Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. » Merci, Seigneur, de cette facilité d'être sauvé. quiconque l'invoque peut être sauvé. Mais là, on rentre après ça au verset 14 qui est important. Comment donc invoqueront-ils celui qui n'ont pas cru? Comment croiront-ils en celui qui n'ont pas entendu parler? Comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Comment il y aurait des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Selon ce qui est écrit, qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Dieu veut voir des beaux pieds. Ça va être qui les beaux pieds? C'est ceux qu'on va envoyer. C'est ceux qui vont y aller. C'est ceux qui vont sortir pour aller parler de Jésus. C'est eux autres les beaux pieds. Qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. On l'a d'aimer la bonne nouvelle. On a la connaissance de la bonne nouvelle. On a l'esprit de la bonne nouvelle. On a juste à sortir et aller faire du porte-à-porte. Aller cogner au monde, leur donner des pamphlets, leur parler de Jésus, prier pour eux autres. Puis on va voir la main du Seigneur. Le Seigneur, là, on va réjouir son cœur quand on va être en train d'obéir à ça. Jésus, là, il a regardé les foules, là, dans son temps, là, des foules, des grosses foules. Puis il était des gens languissants, qui étaient comme sans berger. Peut-être là-dedans, il y avait des malades, des boiteux, des infirmes, hein, toutes les sortes, puis des gens qui étaient affamés, tout ça. Jésus les a regardés, puis s'est mis à pleurer. Il regardait tout le monde, là, comme des personnes sans berger. Puis lui, il se propose pour être le bon berger, le berger qui va s'en occuper. Mais il faut que le monde le sache, comment est-ce qu'ils vont croire s'il n'y a personne qui lui dit? C'est pour ça qu'il faut en envoyer des ouvriers. Il faudrait que notre Église devienne une Église missionnaire, une Église qui a à cœur d'évangéliser partout, puis pas juste une fois, là, puis dire « on a assez fait ». Non, qu'on soit toujours en train d'y retourner. Ces âmes-là s'en vont dans l'étang ardent de feu et de soufre, puis ils vont mourir dans leur péché s'ils n'invoquent pas le Seigneur pour naître de nouveau. C'est important. Voici comment Dieu répond aux prières pour la grande commission. Dans les Actes, on voit ça un peu plus loin, dans Actes 13, les versets de 1 à 4. Ça, l'Église à Antioche, c'était une grosse Église, était équipée avec les ministères, étaient là, des prophètes, des apôtres, des docteurs, des enseignants. Il y avait une grosse Église à cette époque-là. Puis Paul et Barnabas, ils allaient à cette Église-là, à Antioche. Ça nous dit que dans l'Église, au verset 1, 13, 1, il y avait dans l'Église d'Antioche des prophètes puis des docteurs. Barnabas, Siméon, appelé Niger, Lucius de Cyrène, Manahem, qui avait été élevé avec Hérode le Tétraque, et Saul. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, sûrement qu'ils étaient en train de faire de la prédication de la parole, ça priait, puis ça jeûnait. Ils étaient dans l'action, dans l'intercession. C'est quand qu'on est en train de prier qu'il se passe quelque chose. Le Saint-Esprit dit, une parole du Saint-Esprit, il y avait des prophètes aussi dans cette église-là, « Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Il aura plutôt dit, « Oh, ça y est, c'est assez. » On vient de savoir que Dieu appelle Barnabas et Paul dans le ministère. « Go, allez-vous-en. » Non, c'est pas assez. Les gens ont besoin d'être bénis d'une touche de la puissance de Dieu. On les prépare, on les envoie. Il dit comment il y aura des prédicateurs s'ils ne sont envoyés. C'est ça que j'ai lu tantôt, mais c'est ça qu'ils vont faire là. Ils étaient en train de prier puis jeûner. Ils ont eu la parole des envoyés. Verset 3, « Alors, après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. » Voyez-vous la bénédiction de l'Église là-dedans? L'appui de l'Église. Comment est-ce qu'elle doit appuyer? C'est ces deux-là sûrement qui étaient reconnus en tant que personnes comment est-ce qu'on va dire ça? Quand tu donnes une lettre de recommandation, c'est des personnes, tu sais qu'ils sont hein? Crédibles, des gens qui sont fidèles à la parole, qui marchent selon la parole, puis il sera des représentants, mais Dieu aussi est voyant. Mais il dit de prier, là il pria, puis là le Saint-Esprit a dit envoyez-les ceux-là. Ils ont décidé de prier encore, de jeûner, puis qu'on prie pour eux en plus, qu'on les envoie. C'est notre mission de prier pour ceux qui vont y aller, puis on va les accompagner spirituellement parlant. Voyez-vous l'idée qu'on les envoie. C'est pas juste eux autres qui partent. On est avec eux dans ce qu'ils vont faire. On prie avec eux, on les accompagne, puis on les bénit, puis des fois même il y en a qui ont été avec eux pour aller porter la parole. Puis ça nous dit que Barnabas et Saul, envoyés par le Saint-Esprit, ils ont fait leur chemin puis sont allés évangéliser où ce qu'il y avait à aller. Dernier verset. Jusqu'où devons-nous atteindre? Je me suis trompé quand je l'ai écrit la phrase. Jusqu'où devons-nous nous attendre de prier pour qu'il y ait de nouveaux ouvriers? Quand est-ce qu'on va arrêter de prier pour qu'il y ait de nouveaux ouvriers? Quelle devra être notre vision pour qu'on prie, puis que ça soit comme un but à atteindre? On va prier pour qu'il y ait des nouveaux ouvriers tant qu'on verra pas ce but-là s'accomplir. Ça sera jusqu'à quand vous pensez qu'il faudra aller comme maximum, peut-être pas le maximum, mais qu'on arrêterait de prier quand on aura atteint ce but-là? Ça n'est une réponse. Ah, t'étais lu le verset. Regardez dans Tite 1:5 la manière que Paul voyait ça, lui. Il a envoyé Tite. Il dit, je t'ai laissé en Crète afin que tu mettes en ordre ce qui reste à régler et que, selon mes instructions, tu établisses des anciens dans chaque ville. Ça serait-tu une bonne affaire, ça? Je pense qu'on pourrait prier pour atteindre cela. Que notre Québec, qu'il y ait des églises, puis qu'il y ait des ouvriers, là, des anciens, dans chaque ville. Ça serait-tu une belle vision, une belle mission? Puis qu'on pourra se dire, on arrêtera de prier, mais qu'on ait atteint ce but-là. Ça veut dire qu'il y a de l'ouvrage dans la prière à faire. Prions que Dieu envoie des ouvriers dans sa moisson, puis qu'il y en ait partout, dans toutes les villes, dans tous les villages. Amen.